entre du mouchmaï au cachet oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une de compagnie au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, depuis précisément, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans cette émission, dans votre émission interactive Parole aux auditeurs, une émission constituée essentiellement par les points de vue, les avis et l'opinion de nos auditeurs sur des thèmes que nous abordons de lundi à vendredi sur Radio Okapi. Aujourd'hui, mercredi 12 août 2009, le Congo profond et même ceux qui nous suivent partout à travers le monde en live sur Internet vont réagir à la rencontre du jeudi 6 août dernier à Goma, au Nord Kivu, entre le président congolais Joseph Kabila et le président rwandais Paul Kagame à l'invitation du président congolais. Dans le communiqué final sanctionnant cette rencontre, les deux chefs d'État se sont réjouis des différentes opérations militaires déjà menées ou en cours dans les Kivu pour éradiquer tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC, notamment les militants hutu-rwandais appelés FDLR. Après 20 ans d'inactivité, ils ont décidé de relancer la grande commission mixte RDC-Rwanda qui se tiendra entre octobre et novembre à Kinshasa, et le chef de l'État congolais est invité pour une visite au Rwanda. Question: comment jugez-vous le rapprochement entre les deux pays et que faire pour maintenir des relations apaisées entre les deux pays et même dans la région de Grand Lac? Nous en discutons en direct sur Radio Okapi avec vous, auditeurs et auditrices, mais nous avons aussi un invité dans ce studio. Il sera là, je l'espère, il s'agit du professeur Banyaru Bappé, qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa. Bienvenue à tous et à toutes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Professeur Banyaru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone, le temps que vous arriviez dans ce studio. Brièvement, professeur, quelle lecture faites-vous de cette rencontre qui intervient après quand même de relations assez tumultueuses, hein? On se rappelle de la rupture des relations diplomatiques en 1998 entre le Rwanda et la RDC suite à la guerre dite d'agression. Et c'est quand même, comment faites-vous la lecture de cette rencontre?
Merci beaucoup. Je dois vous dire que le départ, c'est quand même une issue heureuse pour nous qui faisons les relations internationales. C'est une issue heureuse lorsque, après, comme vous venez de le dire, de relations tumultueuses, que les deux États, bien sûr avec le concours de la communauté internationale, mais principalement avec une volonté déterminante des deux parties, arrive à s'entendre, à trouver un modus vivendi, c'est-à-dire un apaisement dans les relations, plus qu'un apaisement, mais un rétablissement des relations à la fois des relations diplomatiques et avec l'ouverture aussi des projets d'intérêt commun.
Voilà, donc ça augure quand même d'une certaine avancée dans les relations ou dans l'apaisement de la situation dans la région des Grands Lacs aussi, d'après vous?
Oui, c'est un apaisement, comme je disais, plus qu'un apaisement, c'est un rétablissement des relations. Et tel que je connais la détermination des deux présidents et la rationalité qu'ils mettent dans cette approche pour la recherche de la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, je pense que c'est après 4 ans, puisque il faut bien le dire, c'est depuis 2004, que les États se sont mis à rechercher dans les cadres régionales ou envisager une démarche régionale pour retrouver la paix au niveau de la région des Grands Lacs. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement la guerre d'agression, mais il y a toute une tension qui a régné dans la région après le renversement du régime du président Mobutu. Donc, je crois que c'est une approche qui est réaliste, puisque pour nous, l'objectif, pour les Congo principalement, l'objectif, c'est d'atteindre l'océan Indien, comme vous le savez, l'océan Atlantique a pratiquement vu diminuer le flux à la fois des échanges commerciaux et le flux des capitaux. Donc, c'est pour nous une heureuse issue, de sorte que nous puissions, avec les temps, renouer les deux axes de développement qui sont l'océan Atlantique et l'océan Indien.
Merci pour ton témoignage.
L'océan Indien sont passés par le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.
Merci beaucoup, professeur. On vous garde tout au long de cette émission. Le temps de prendre aussi quelques invités qui sont déjà en ligne. Il y a notamment Jonathan de Bukavu, aussi de Kivu, et Maître Patrick qui intervient à partir de Kinshasa. On va commencer avec vous, Jonathan. Bonjour.
Bonjour, c'est le général apporté correctif. Je m'appelle Sébastien Franck Moussamba Boussi. Je suis étudiant à l'Université du Mont-Kibangu de Bukavu.
Comment jugez-vous le rapprochement entre les deux pays?
En tout cas, c'est quelque chose à encourager. C'est à féliciter. Nous devons féliciter la flexibilité du président Kagame et de notre chef de l'État, Joseph Kabila, pour avoir encore le dialogue avec Kigali. Parce que vous savez, ce club, ça fait longtemps que le Congo a été fusillé, a été déstabilisé au travers le Rwanda, au travers l'Ouganda. Mais maintenant que le chef de l'État a compris qu'il fallait, renouer ce dialogue, c'est quelque chose de très important. Et aussi dans le cadre de la protection des intérêts, du partage des intérêts, parce que nous avons des intérêts à protéger, à partager. Le lac Tanganyika, le lac Kivu et le Congo. Il y a aussi la paix, parce que le Rwanda considère que la question des intérêts à moins constitue une menace pour le Rwanda. Et nous autres, de notre part, décidons qu'il faut qu'il y ait une paix sur l'intérêt national du Congo pour que nous puissions redécoller. Mais en dehors de ça, je ne suis pas d'accord avec les professeurs qui venaient d'intervenir, parce qu'ils disent que non, nous sommes en train de chercher comment atteindre le CME. Je lui dis franchement que moi je suis avocat vous, et ça fait longtemps que nous analysons les faits au niveau de la région des grands lacs minimalistes. Ben, nous estimons que nos commerçants, il y a des hommes d'affaires congolais qui quittent Bukavu, Goma, qui vont vers Tanzanie, Mombasa, sans problème, il y a un contact. Mais nous devons protéger ces zones que le professeur Banyakoulou appelle le poteau, tant que le politique appelle les zones de l'eau.
Merci beaucoup.
Le Congo s'approvisionne. Et je pense que c'est très important. Nous devons encore retrouver notre le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Ça, c'est rapprochement de points structurants à la géopolitique en Afrique médiane.
Josaphat, on vous garde encore un tout petit peu dans cette émission. Il est temps de prendre aussi Maître Patrick dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Maître Patrick, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, vous avez suivi le professeur Banyakou et le premier auditeur Josaphat qui intervenait de Bukavu. Êtes-vous d'accord avec eux ou plutôt vous avez une autre lecture des choses?
Bon, malheureusement, je n'ai pas suivi le professeur Banyakou. J'ai venu de suivre les dernières comme auditeurs. Bon, moi je suis intéressé à la question de la région des Grands Lacs. Je me félicite aujourd'hui sur les recherches que j'ai toujours effectuées et que ce sont des choses qui sont en train de se réaliser. Vous savez, le problème c'est quoi? Pendant que les autres nations sont en train de se battre pour la réintégration régionale, mais nous, dans la région du Grand Lac, on a perdu le temps des dépenses militaires inutiles. Imaginez-vous tout ce que le Rwanda a investi comme dépenses militaires pendant les deux décennies. Imaginez-vous tout ce que le Congo a investi comme dépenses militaires pendant les deux décennies. Ça ferait combien à des différentes populations, à des Congolaises et rwandaises. Moi, je pense, comme je l'ai toujours proposé dans mes recherches, que seule la volonté politique réelle des animateurs des États de la région des Grands Lacs mettra fin à la situation des conflits armés dans cette région. Donc, pour le moment, ce que nous sommes en train d'observer, c'est comme si il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des animateurs, entre autres, le président Kabila et le président Kagame. Parce que qu'est-ce qu'on a vécu? Soit c'est les Rwandais qui disent non, écoutez, vous êtes là-bas avec les intérêts à moi, vous gagnez les intérêts à moi pour nous menacer. Et c'est soit les Congo qui disent non, écoutez, les Rwandais, bon, vous armez les milices et vice versa. Et on a perdu le temps. pugne.
Voilà. Là, donc, en d'autres termes, pour terminer avec vous, tout ce que le Congo et le Rwanda ont investi dans la guerre, s'ils avaient investi dans l'économie, dans le social, la région de Grand Lac serait un peu plus développée que maintenant, c'est ce que vous voulez dire.
Plus loin. Et moi, j'ai toujours préconisé, si ces dépenses militaires étaient investies dans les dépenses de projets intégrateurs pour les deux populations, mais on aurait des autoroutes. On aurait peut-être des autoroutes qui quitteraient aujourd'hui Kigali jusqu'à Kinshasa. On aurait même des chemins de fer qui quitteraient Kigali jusqu'à Kinshasa, jusqu'au Burundi, et voire même à Uganda. Tout ce qu'on avait pensé. Les richesses minières du Congo qui ont été pillées illégalement. Et ça a servi encore au Rwanda, ni au Congo. Donc, moi je pense, pour le moment, c'est à féliciter, c'est à encourager que cette rencontre et ce rapprochement-là continue et en toute sincérité.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Vous intervenez à partir de Kinshasa et Josaphat de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Voilà, nous revenons à notre invité, le professeur Banyankou Bappé, qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa. Maître, excusez-moi, professeur, votre réaction par rapport aux propos, aux avis, aux points de vue de ces deux auditeurs.
Je vous remercie beaucoup. Je pense que les deux auditeurs ont clairement encouragé et assisté à la fois sur les questions de la paix et les questions plutôt liées au développement économique. Je pense que ce sont les deux axes pour le moment qui sont importants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des questions humanitaires et sociales. La région, particulièrement les deux pays, le Rwanda et le Congo, ont connu des mouvements, les déplacements de personnes, ont connu des violences qui sont pratiquement liées à l'état de guerre ou à la situation de guerre, mais qui continuent maintenant là à devenir un peu incrustées dans la culture de notre société. Et c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment stopper que lorsque les deux États y mettent l'attention, non seulement pour la paix, mais aussi pour mettre fin à cet état de choses, à ces violences qui sont devenues récurrentes dans la région des Grands Lacs. Mais je pense que jusqu'ici, les deux auditeurs sont dans le sens d'encouragement et dans le sens de stimuler, d'orienter les relations entre les deux États, mais non seulement que les Rwanda et le Congo, mais aussi avec tous les autres États de la région.
Professeur Banyankou, comment réagissez-vous au mail de Becky qui dit que la rencontre, elle ne croit pas du tout au résultat de la rencontre entre les deux présidents?
Je dois vous dire très sincèrement que je suis dans cette conférence du Grand Lac depuis 2004, comme je vous l'avais dit, la date où le président de la République nous avait nommé le M. Amouli comme coordonnateur national et moi-même comme coordonnateur adjoint. Je dois avouer que les débuts, c'est-à-dire les réunions des contacts et la réalisation des objectifs de la paix étaient difficiles. Mais que 4 ans après, lorsque je viens d'ailleurs de Lusaka pour le sommet des chefs d'État, on voit l'ambiance. Quand on a annoncé ce qu'on était à Lusaka, quand on a annoncé que les chefs d'État se sont rencontrés, le ministre des Affaires étrangères du Kenya a ajouté qu'il a eu des larmes aux yeux. Il a été tellement content puisque l'objet en fait de ces rencontres, c'est que tout le monde veut que le Congo soit stabilisé, tout le monde veut que cette région retrouve la paix puisque c'est devenu le dernier potentiel économique du monde. Si nous prenons la paix signifie développement, signifie sécurité, signifie aussi une humanisation des relations au niveau de la région.
Voilà, merci beaucoup professeur. On vous garde tout au long de cette émission. On va aller maintenant, nous allons nous rendre à Mbandaka, au nord du pays, dans la province de l'Équateur précisément. Emina, vous êtes sur place et ensuite nous allons également nous rendre au Rwanda. Mike est déjà en ligne. On va commencer avec vous, Emina. Vous êtes à Mbandaka, bonjour d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur quand il dit que finalement tout le monde est content, notamment dans la dernière réunion qui s'est déroulé à Lusaka, qui a réuni les pays des Grands Lacs, parce que la région des Grands Lacs, le Congo, pratiquement était devenu comme un certain ventre mou de cette région des Grands Lacs. Vous êtes d'accord avec le professeur?
Bonjour, M. Claude, et à tous les auditeurs de la radio Papi qui nous suit à ce moment. À mon humble avis, je salue cette rencontre du chef de l'État. C'est un événement qui inaugure un nouveau départ pour instaurer une véritable paix entre les deux pays, et surtout dans la région des Grands Lacs. Et je suis tout à fait d'accord, parce que quand j'ai suivi le protocole, c'est dans les soucis que le chef de l'État congolais a de voir la population congolaise en général et celle de la région des Grands Lacs en particulier de vivre définitivement en paix. Et en tout cas, je suis vraiment tout à fait d'accord et je salue vraiment cette rencontre.
Et que faire alors pour maintenir des relations apaisées entre les deux pays et même dans toute la région des Grands Lacs, d'après vous?
Ok, pour maintenir ces relations, il faudra d'abord respecter les accords. Les accords pour que les graves crises que nous avons connues entre nos deux pays ne se répètent plus jamais.
Voilà, on vous garde encore dans cette émission. On va aussi chercher à savoir si Mike qui intervient à partir du Rwanda est d'accord avec vous. Mike, bonjour, vous êtes dans quelle ville du Rwanda précisément?
Bonjour Claude, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. En ce moment, je me trouve à Boutare.
À Boutare. Est-ce que vous êtes d'accord avec la position des Mina qui intervient de Mbandaka dans l'Équateur?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec la position de Mina parce que bon, toutes les relations sont basées sur certains points. En l'occurrence, peut-être le texte. Quand vous avez signé certains textes, il faut bien savoir le respecter pour pérenniser cette bonne relation-là.
Voilà, mais il y en a qui ne croient pas à cette rencontre, comme Betty qui nous a écrit.
Écoutez, Claude, si nous devons demeurer sceptiques en toutes choses, ce n'est pas bien, ce n'est pas de nature à avantager notre pays. Vous savez que cette guerre et ce malaise qui a longtemps régné entre nos deux pays n'était pas du genre à nous rendre la vie facile, surtout nous les Congolais qui évoluons ici. Et ici où nous sommes, pratiquement nous n'éprouvons pas de problème. Et quand vous présentez n'importe où, vous dites que vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas être victime d'un mauvais traitement. Donc, nous voyons que les conditions vont encore plus s'améliorer quand nous serons d'accord, quand nous serons dans de bonnes relations. Et surtout, c'est comme nos présidents ont accepté de mettre de l'eau dans le vin pour, afin que cette paix qui a été longtemps cherchée soit trouvée.
Oui. Alors, vous êtes au Rwanda, à Boutare précisément. Mike, quelle lecture fait-on de cette rencontre entre les présidents Kabila et Kagame au Rwanda, là où vous vous trouvez?
Bon, selon ce que moi je bosse, quelques gens que j'ai pu avec qui je partage la vie ici, tout le monde vraiment a accueilli d'une bonne main, tout le monde a accueilli vraiment cette rencontre-là à bras ouverts. Dire que vraiment, nous les Congolais et vous, exposez-nous ce qu'ils nous disent, quoi. Nous sommes pratiquement un même peuple, nous avons beaucoup de choses à partager et que, comme nos deux présidents ont eu vraiment l'initiative de se rencontrer, de se parler face à face, de faire enfin une paix des braves, vraiment ici, à 85%, si pas même à 90%, tout le monde vraiment a accueilli ça à bras ouverts et avec allégresse, quoi.
Et que faire alors pour consolider ces relations apaisées entre les deux pays et même dans la région de Grand Lac, en une phrase?
Bon, moi je dis tout simplement que bon, nos dirigeants doivent faire surtout attention dans certaines déclarations. Hein, parce que moi je vous suis ici sur Internet, il y a des fois des déclarations qui sont faites même parfois avec certaines députés de chez nous. Bon, c'est pas du genre à faire que le fil rouge puisse se pérenniser. Il faut être un peu doux dans le langage pour que cette paix qui a été longtemps cherchée soit consolidée et conservée à jamais.
Voilà. Merci beaucoup, Mike. Vous intervenez à partir de Boutare, c'est au Rwanda, et Emina intervenait à partir de Mbandaka, c'est dans la province de l'Équateur. Merci à tous les deux et bonne journée.
Radio Okapi, Okapi. Okapi Service. L'émission au service des populations. Des questions, des gestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Parole aux auditeurs.
Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet et a@radiookapi.net.
Si vous venez de vous joindre à nous dans votre émission interactive Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, je vous en rappelle le thème pour apporter vous aussi en direct sur nos antennes votre contribution à notre débat du jour, rencontre des présidents Kabila et Kagame, le jeudi 6 août dernier à Goma, Nord Kivu, à l'invitation du président congolais. Comment jugez-vous le rapprochement entre les deux pays et que faire pour maintenir des relations apaisées entre les deux pays et même dans la région de Grand Lac? Réagissez à ces deux questions en direct dans Parole aux auditeurs sur Radio Okapi. Et pour le faire, appelez-nous directement au 081 99 77 800. Et si vous nous suivez de l'étranger, n'oubliez pas de mettre le code de la RDC, le 00243, avant le 81 99 77 800. Par SMS, envoyez votre point de vue ou encore votre prénom et un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre. Envoyez-les-nous par SMS au 09 98 999 222 et par internet, envoyez votre mail ou votre prénom et numéro de téléphone pour vous rappeler à l'adresse suivante. Donc, voici notre adresse PA en un seul mot, @radiookapi.net. C'est notre adresse internet pour participer à cette émission. N'oubliez pas, Radio Okapi s'écrit en un seul mot avec deux lettres O collées. Nous en parlons aujourd'hui avec un invité, le professeur Banyankou Bappé. Il enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa. Professeur, on a entendu des auditeurs appeler à un certain apaisement, notamment ces témoignages qui nous est venu du Rwanda, de Butare, d'un Congolais qui vit et qui dit qu'ils sont très très bien traités là-bas au Rwanda et que les hommes politiques congolais devraient faire quand même attention dans les médias au langage qu'ils utilisent, que ce soit plutôt des langages conciliateurs plutôt que des langages qui peuvent amener une certaine tension. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mike, et c'est un point très important, parce que remarquez que si nous avons évolué un peu dans le sens de trouver aujourd'hui une issue, c'est que de part et d'autre, il y avait de la retenue, et particulièrement ce qui concerne le président Kabila, puisqu'il avait de bonnes raisons de répondre, de répondre à plusieurs attaques, surtout en ce qui concerne cette situation, mais il a gardé de la retenue et de la réserve. Et pour nous, en relation internationale, on dit une des causes des troubles ou des désagréments dans les relations, c'est d'avoir la langue à portée de main. Je pense qu'il vient de donner quelque chose de très fondamental. Nous devons apprendre à prendre à faire de la retenue et de la réserve, surtout lorsqu'on n'a pas encore tous les éléments d'appréciation. Et je crois ici, les éléments d'appréciation, c'est que la vision de départ était une vision qui ne concerne pas les Rwandais comme pays ou bien comme peuple. C'est une vision qui concerne des tracés, comme on dit, des tracés géopolitiques. Si dans ces tracés géopolitiques, il se trouve qu'un État qui s'appelle le Rwanda se trouve dans votre tracé géopolitique pour atteindre certains objectifs, eh bien, vous en faites avec. Et je pense que c'est le réalisme qui nous amène aujourd'hui et qui a permis qu'au lieu de faire des invectives, des injures, qu'on recherche, l'esprit doit fonctionner dans le sens de trouver une solution et non dans le sens d'animer ou de détruire.
Professeur Banyankou, est-ce que finalement les populations congolaises et rwandaises n'étaient pas en avance par rapport aux politiciens? Parce que moi j'ai été à Goma, il faut voir le flux entre les deux pays, à la frontière entre les deux pays, il n'y avait pas de problème. Les Rwandais venaient au Congo et les Congolais allaient traverser facilement au Rwanda. Est-ce que les politiciens congolais n'étaient pas en retard par rapport aux populations qui étaient, elles, beaucoup plus pratiques, parce que cela dépend leur survie en dépend, quoi.
Oui. Non, là, vous avez raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'avance, c'est un problème de la globalité. Lorsque vous êtes entre deux peuples qui sont dans les communautés transfrontalières, généralement, les communautés transfrontalières vivent dans des conditions telles qu'ils sont obligés de se fréquenter, ils sont obligés d'avoir des échanges. Mais c'est au niveau de la globalité que le problème parfois se pose. Or, l'État est global. L'État n'est pas une portion de terre
ou des individus qui se forment des mariages qui se passent entre les communautés transfrontalières. L'État, c'est plus grand que ça. Mais c'est très évident ici, c'est qu'au niveau de l'État, au niveau des intérêts de l'État, on a trouvé qu'il fallait nécessairement arriver à cet apaisement, il fallait nécessairement arriver à cette situation de paix, de sécurité et de développement, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons, avec les États de la région, pratiquement aujourd'hui 11 projets intégrateurs. Et si ces 11 projets intégrateurs, vous avez le Congo qui est au centre, pratiquement sur le 9 projets. C'est leur projet intégrateur dans la région des Grands Lacs. Il s'agit des corridors nord, corridors sud, des projets, par exemple, comme on a actuellement le projet de la CPGL, et qui concerne les trois pays, c'est-à-dire le Congo, le Rwanda et le Burundi, qui doit s'élargir, ainsi que d'autres projets qui sont même de développement agroalimentaire. Donc nous avons intérêt, non seulement à dépasser, il ne faut pas voir cette question du Rwanda comme une question tout simplement de communautés transfrontalières, mais c'est une question globale, une stratégie globale d'un État.
Voilà, merci beaucoup professeur. Le temps pour nous de rester ici à Kinshasa avec Théodore. Bonjour Théodore.
Claude, bonjour les amis de la Radio Monde.
Vous avez suivi le professeur Baniakou Bappé qui dit qu'il faut mettre l'accent sur les relations économiques entre les deux pays hein, qui sont très importantes en dépit de ce qui s'est passé dans l'histoire entre ces deux nations. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que je me souviens que le président Paul Kagame avait dit qu'il faut aller au-delà de la coopération en matière de sécurité, aller maintenant avancer dans le domaine des investissements, de la coopération sous le plan économique, technique, etc.
Oui, j'ai suivi ce que le professeur Mania vous venait de dire, mais je voudrais intervenir à cet instant pour dire que nous y allons dans ces relations dans une position de faiblesse. Une position de faiblesse puisque dans la région des Grands Lacs, le Congo est un pays qui est plus frustré, plus attaqué, et que le Congo doit chercher à négocier pour sa paix. Alors, dans cette position de faiblesse où notre armée n'est pas aussi forte pour faire face au Rwanda, et aussi que le pays comme le Rwanda se trouve maintenant aussi dans une situation de fragilité, parce qu'il y a les éléments rwandais qui sont dans notre pays, qui de temps en temps constituent un obstacle pour le développement du Rwanda. Il est tout à fait intérêt, il y a intérêt à ce que les deux chefs d'État se retrouvent pour discuter des relations. Mais je voudrais moi dire que ces relations doivent être des relations de responsabilité. Donc nous dialoguons avec les responsables dans une cohérence totale où ce qui doit découler de ces relations doit être plus pour l'intérêt de la population, surtout la population congolaise.
Voilà. On va demander aussi à Kaboto, qui lui est à Walikale, dans la province du Nord Kivu, s'il est d'accord avec vous. Bonjour Kaboto.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes au nord-est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec Théodore de Kinshasa qui pense que ces relations doivent être des relations de responsabilité? Comment vous le comprenez?
Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur Théodore de Kinshasa.
Pourquoi?
Mais ce n'est pas la première fois que le président rwandais Paul Kagame et Kabila se rencontrent. À ce qui concerne le problème de l'Est.
Mmh.
Il a dit que le Rwanda n'était pas le seul à fondre de déstabiliser notre pays.
Mais il a promis de ne plus laisser aucune personne déstabiliser le Congo à partir du Rwanda. Il a dit qu'il faut faire table rase du passé, le président Kagame.
Non, c'est pas la première fois. Quand vous vous souvenez de la police de Nairobi et de la conférence de Goma, qu'est-ce que les cinq États avaient signé comme l'acte d'engagement? Il avait détourné l'acte d'engagement. Moi, pour ma part, je vois que c'était la commune de ces deux chefs de l'État est catastrophique.
Donc, vous êtes pessimiste. On va aussi rentrer auprès de Théodore. Théodore, est-ce que vous partagez, vous êtes à Kinshasa, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Kaboto, qui lui est à Walikale, dans la province du Nord Kivu?
Je ne voudrais pas rester statique comme mon frère. je voudrais que vous dire que la politique est dynamique et qu'il y a toute une évolution et un changement. Il faut nécessairement que les deux personnes responsables des États se rencontrent pour arriver facilement à décrisper cette situation. Si ces deux personnes se sont rencontrées hier, où il y a eu d'autres signatures, d'autres accords hier, mais aujourd'hui il y a lieu de faire foi à ces rencontres. C'est-à-dire qu'il faut maintenant le lobbying au niveau des personnes concernées, entre autres nous les Congolais. Nous devons maintenant avoir des actions de lobbying auprès de nos représentants, donc auprès de notre chef de l'État, pour que ce qui doit être fait entre nous et les Rwandais reflète plus nos aspirations en tant que Congolais.
Voilà. On va rentrer à Walikale avant de vous libérer, hein, tous les deux, parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Kabuto, vous êtes à Walikale, au nord-est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait toujours tension entre les deux pays, entre le Rwanda et le Congo, alors que, excusez-moi, écoutez d'abord, parce que alors que les frontières étaient, disons, les relations diplomatiques entre les deux pays étaient rompues, hein, depuis 1998, mais les populations, vous qui êtes au Kivu, vous traversiez, les uns traversaient vers le Rwanda et les autres traversaient également vers le Congo. Mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait toujours des relations sous tension entre les deux pays? Pourquoi ne pas faire table rase, oublier le passé et avancer comme les Européens l'ont aussi fait après la Seconde Guerre mondiale?
Après la Seconde Guerre mondiale, messieurs les journalistes, c'est quand vous dites qu'on est à une frontière avec le Rwanda. Il y a aussi les politiciens congolais qui aussi impinglés dans notre programme de la guerre. Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Kabuto, de Walikale au nord, Kivu et Théodore, de Kinshasa. Merci beaucoup d'être intervenu.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Professeur Banyakou Luapé, vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa et vous êtes notre invité dans cette émission Parole aux auditeurs. Réagissez face à ces réactions croisées, hein, entre ces deux auditeurs qui ne partagent pas le même point de vue sur cette question.
Je pense que on ne peut pas, de prime abord, les gens qui sont à Walikale, ceux qui sont à Rutshuru ou à Masisi, ressentent ces événements plutôt du côté un peu plus objectif, c'est-à-dire ils sont touchés dans leur chair. Et ils ont des références, comme il est dit, on s'est rencontré à Goma, on s'est rencontré. Mais moi, je dis toujours, à côté, ce qui particularise, la situation est particularisée actuellement par le fait des documents. Nous avons non seulement la déclaration de Dar es Salaam, mais aussi nous avons le pacte sur la sécurité, la stabilité, le développement dans la région des Grands Lacs. Donc, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un instrument juridique plutôt, qui nous permet d'espérer. Et ça, c'est de un. Et de deux, je prends des références historiques, puisque la nouvelle génération prend la référence de 1998 comme l'unique référence. Mais il ne faut pas oublier que notre Congo, notre pays, pendant le régime de ce président Mobutu, est intervenu. Il ne faut pas oublier que nous sommes allés jusqu'à Luanda. On a occupé, et ça n'a pas empêché à l'Angola de nous soutenir lorsqu'il y a eu la guerre d'agression. Il ne faut pas oublier que nous avons aidé, par exemple, en Ouganda, la prise de pouvoir de l'actuel président contre un autre président. Il ne faut pas oublier que nous sommes intervenus au Burundi, et ça, c'est dans une tranche pas trop loin, puisque c'était aux années, entre les années 70 et les années 80. Donc, il ne faut pas dire que même nous n'avons pas de responsabilité dans la déstabilisation de la région, et ce qui est heureux, c'est que nous reconnaissons et nous disons, il ne faut pas dire le ventre mou, nous ne sommes pas les plus faibles. Nous sommes intervenus dans cette région partout. Et c'est que nous cherchons...
Oui, maintenant, nous sommes devenus faibles, professeur.
Des relations internationales. Maintenant, nous voulons aller dans la vision de la paix, la vision du développement, et ce qui caractérise aujourd'hui les relations. Et c'est pourquoi, au niveau de la communauté internationale, l'approche choisie par le Congo, par les Rwandais, est une approche réaliste, c'est une approche qui permet de trouver et d'oublier le passé. Vous ne pouvez pas vous accrocher au passé et responsabiliser seulement les quelques États, Dès que nous tous, nous sommes dans cette région, nous ne sommes pas tous innocents. Ce qui importe maintenant, c'est la nouvelle vision que nous voulons imprimer dans la région des Grands Lacs.
Oui, merci beaucoup, professeur. On vous garde toujours tout au long de, avec nous tout au long de cette émission. Le temps de prendre aussi deux auditeurs. Hein. Il y a Jean-Claude qui est dans la partie sud-est du pays, précisément à Kolwezi, au Katanga. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, Claude.
Vous avez suivi le professeur Banyankou Lwapé qui estime qu'il ne faudrait pas rester rivé sur le passé. Est-ce que vous partagez ce même point de vue
Non, moi j'ai en tout cas mon point de vue aussi.
Allez-y, on vous écoute.
Bon, ouais, à l'époque du sous-président Mobutu, il n'y avait aucun pays qui pouvait faire ça de la RDC. Le Rwanda, c'était un petit pays qui ne pouvait même pas parler, même pas broncher. Mmh. Mais aujourd'hui, ça c'est une faiblesse, puisque le président, c'est lui qui a invité Kagame à venir chez nous. Kagame, il est président d'un petit pays, un tout petit pays. C'est comme qu'il dit aujourd'hui un éléphant qui va avoir, un lapin.
Mais, excusez-moi Jean-Claude, la Belgique va entrer dans la République démocratique du Congo 80 fois, hein, mais cela n'empêche pas la Belgique de nous aider financièrement. Est-ce que nous refusons aussi l'aide de la Belgique parce que le Congo, c'est 80 fois la superficie de la Belgique et 5 fois la superficie de la France?
Vous avez bien dit financièrement. Aujourd'hui, le Congo a des milliers et des milliers de militaires. Hein? Est-ce que les Congolais eux-mêmes ne peuvent pas mettre fin aux gestes de l'RDC de l'RDC? Il faut se plier devant Kagame, mais il faut l'atteler chez nous pour mettre fin à la guerre de l'Est.
À ce que je sache, les troupes rwandaises ne sont plus au Congo. C'est l'armée nationale dans l'opération Kimia 2 est en train de traquer les FDLR.
S'il vous plaît, sur M. Claude, l'Union Kagame a dit il ne sera pas, il ne peut pas laisser quelqu'un déstabiliser les RDC par le Rwanda. Donc, il reconnaît quelque chose en lui, hein, s'il vous plaît. Hein? Kagame doit jouer un grand rôle dans la guerre de l'Est.
Alors,
hein, s'il vous plaît.
Oui, alors, alors Jean-Claude, vous intervenez à partir de Kolwezi au Katanga. Vous n'êtes pas d'accord avec cette rencontre. Et qu'est-ce que vous voulez finalement dans les relations entre les deux pays? Qu'on se tire dessus?
Non. Moi, je voulais que le président et le gouvernement prennent les choses en main. Hein? Le Congo a des milliers de militaires. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement ne peut pas mettre fin à la guerre de l'Est? Hein? Lui-même, le président et son gouvernement, ils ne peuvent pas mettre fin à la guerre de l'Est. Hein? Il faut le chercher Kagame, il faut l'inviter, il faut lui parler. Un tout petit pays qui n'a même pas la grandeur d'une province du Katanga.
Voilà, merci Jean-Claude de Kolwezi. On va aussi interroger Thomas qui est à Goma, en Nord Kivu, qui partage le même point de vue que vous. Bonjour Thomas, c'est ma question.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui de Jean-Claude qui intervenait depuis Kolwezi au Katanga?
Moi, je ne partage pas le même point de vue parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle pas de la consolidation de la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix au niveau de la région des Grands Lacs, je pense que cette rencontre est d'une importance capitale dès lors qu'elle va faire en sorte que tous ces pays de la région des Grands Lacs puissent travailler d'une manière ou d'une autre en collaboration. Cependant, je voudrais, au-delà du fait de cette consolidation de la coopération pacifique de la paix, je voudrais qu'on puisse aussi intégrer la dimension jeunesse. Parce que du moment que la jeunesse n'est pas aussi impliquée dans ce processus de paix, il sera tout à fait difficile que cela soit effectif. Je voudrais que donc la jeunesse, et au-delà même la jeunesse occidentale, soit aussi impliquée dans ce processus. Parce que moi, j'ai supposé que la jeunesse constitue pour nous une courroie de transmission entre la population locale et l'autorité publique. Et donc, dès lors que la jeunesse est informée, dès lors qu'elle est formée aussi par rapport à cette zone, elle va sensibiliser, bien entendu, la population locale et qui, certainement, doit participer d'une manière ou d'une autre dans ce
Thomas, vous êtes à Goma, au Nord Kivu, à la frontière avec la ville de Gitegi, que je connais. Mais Alors que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient rompues à la suite de la guerre dite d'agression en 1998, mais moi, quand j'étais à Goma, je voyais les populations des deux côtés, hein, du Rwanda et du Congo, traverser les uns vers, du côté des autres et vice versa. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la rencontre de ces deux présidents et puis la nomination des ambassadeurs, est-ce que ça ne vient pas simplement formaliser, officialiser les relations qui existaient déjà, hein, malgré que les relations diplomatiques étaient rompues. Les populations se côtoyaient.
Donc, consolider sur le plan politique, sur le plan international, sur le plan national. Donc, au-delà du fait qu'il y avait une espèce de collaboration qui existait ou qui existe entre la population de Goma et celle de Gisenyi, plus rwandaise, nous voulons également qu'au niveau de la politique nationale, voire régionale, que cela soit effectif, c'est-à-dire que nos politiques ne doivent pas se limiter au niveau du fait qu'ils doivent signer des accords, ils doivent nommer des ambassadeurs, non, mais ils doivent faire en sorte que toute la population participe. Et je voulais que cette population participe à travers pas la jeunesse.
Voilà, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup Thomas, vous l'avez déjà dit à propos de la jeunesse. Merci pour votre intervention depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. Guillaume, vous êtes à Kinshasa. Quelle est votre réaction face à la déclaration du président Kagame, hein, lors de la conférence de presse qu'avaient tenue les deux présidents, lorsqu'il disait que le Rwanda ne permettra plus la déstabilisation de la RDC à partir de son territoire, c'est-à-dire du Rwanda. Comment réagissez-vous face à cette déclaration du président rwandais?
Mon premier réflexe, c'est que je considère que c'est un aveu de la participation du Rwanda dans la déstabilisation. Okay, quand il dit on ne le fera plus, c'est qu'on le fait. Les populations ont toujours vécu ensemble, comme vous l'avez dit. La CPG est la plus réussie et nous avons toujours vécu en bon terme de diplomatie. Aujourd'hui, on veut parler de paix.
Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Vous intervenez à partir de la maison ou bien de l'extérieur?
Je suis à la maison, mais le réseau passe normalement bien.
Est-ce que vous pouvez aller à l'extérieur, s'il vous plaît?
Ok, je continue. Alors, nous voulons parler de paix aujourd'hui. C'est qu'il y a eu guerre. Connaissons-nous les causes de la guerre? Ça, c'est un. De deux, La situation difficile risque de continuer. Pourquoi? On a fait de FDLR le problème de la RDC. Alors que le FDLR, ce sont des Rwandais qui, sous la communauté internationale, ont été accueillis. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de souligner et dire que nous devons éradiquer, et même avec la participation du Rwanda. Où est-ce qu'on a déjà vu un pays qui décide d'aller éradiquer sa population sur le territoire d'un autre pays? Nous devons mettre la communauté internationale dans le processus. Nous seuls, Rwanda, Congo, nous ne pouvons pas résoudre ce problème sans la communauté internationale qui était à la base de la présence de FDLR chez nous.
Mais pourtant, la communauté internationale est là à travers la MONUC, hein, pour soutenir l'opération Kimia 2 que mène l'armée nationale contre les miliciens autorwandais de FDLR.
Bien sûr, c'est ce que je dis. On ne peut pas mettre la communauté pour l'éradication d'une population. Il faut qu'une population se reconcilie. Tout qui ou tout, c'est ça le problème. Et la communauté internationale que je demande, c'est par exemple l'HCR. Comme ils ont signé il y a à peine 3 semaines l'Ouganda et le Rwanda, pour les FDR, ils sont en Ouganda. Donc il faut que la population, elle, d'autant qu'il y a des enfants de 10 ans, 15 ans qui n'ont pas participé au génocide, sont là. Donc on peut garantir la sécurité au Rwanda sous l'égide de la communauté internationale. Et à partir de ce moment-là, les FDLR peuvent repartir. Écoutez, monsieur le journaliste, c'est vrai, on va faire la paix. Mais peut-être du point de vue militaire, il y aura plus de armes. Mais savez-vous que nous avons connu le deuxième génocide de l'histoire de l'humanité? 3 à 5 millions de morts, à part les Suisses. Les Arméniens, c'était 300 000. Nous sommes, ça fait 5 millions de morts. Et nous n'avons pas encore
5 millions de Congolais.
De réconciliation.
5 millions de Congolais qui sont morts, c'est ça?
Absolument. C'est le deuxième génocide de l'histoire de l'humanité. Ce sont des choses qu'il faut aplanir avant de commencer à parler d'autre chose. C'est vrai qu'il y a des intérêts économiques. Nous voyons que c'est l'intérêt économique partagé est disproportionné. L'intérêt que, en fait, le gouvernement est disproportionné est disproportionné.
Voilà, Guillaume, nous avons du mal à vous capter. Hein. Merci beaucoup d'être intervenu. Je ne sais pas s'il faut vraiment parler de génocide. Hein. Il y a eu des millions de morts congolais. Je ne sais pas s'il faut parler de génocide.
Voilà.
Merci parce que les 5 millions de morts congolais, c'est suite aux conséquences de la guerre, c'est-à-dire la famine, les maladies, etc. Merci beaucoup hein, d'être intervenu, Guillaume de Kinshasa. Nous allons quitter Kinshasa pour nous rendre dans la partie nord du pays, précisément en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Germain, vous êtes présent. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui de l'auditeur qui vous a précédé, Guillaume de Kinshasa?
D'abord, je vous remercie, M. Claude Kinza, de m'avoir accordé la parole. Pratiquement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon prédécesseur.
Dans quel sens?
Bon, moi, je pense que c'est une position un peu extrémiste, là. Vous savez, on sait quand commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut la terminer. Si aujourd'hui les deux pays, les deux présidents acceptent de marcher ensemble la main dans la main, nous ne pouvons qu'applaudir, nous, la population. Surtout de notre côté, en tant que président d'une association de jeunes, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Moi, je pense que des fois, il faut faire la paix des bras, il faut tous regarder dans le même sens. Tout le monde sait comment a commencé cette guerre. Il y a ceux-là qui attribuent que la guerre était une guerre économique. D'ailleurs, nous avons même suivi des rapports des organisations internationales qui ont déclaré que la guerre était économique. Il y a des entreprises multinationales qui finançaient la guerre. Et aujourd'hui, le président Kagame a accepté qu'il ne va plus soutenir, comme l'a dit l'autre. Si quelqu'un dit qu'il ne veut plus le faire, donc il le faisait. Nous le prenons au mot. Il appartient maintenant à nous, Congolais, de se prendre en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila, de se prendre en charge, de chercher comment arrêter cette histoire. Donc, ce ne sont pas les Congolais qui les ont invités. Ils sont venus, tout le monde sait comment ils sont venus. C'est la même communauté internationale qui peut nous aider à retirer les FDLR là, qui font des donations parmi nos populations congolaises.
Voilà. Germain, vous êtes en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Entre octobre et novembre prochain, se tiendra la grande commission mixte Rwanda-RDC qui n'a plus fonctionné depuis plus de 20 ans. Et cette grande commission mixte va examiner en priorité les questions de coopération en matière de sécurité, d'énergie, d'environnement et tourisme, de commerce et investissement, la question des réfugiés ainsi que celle de la coopération judiciaire, technique, scientifique et culturelle. Est-ce que vous pensez que une coopération en matière économique beaucoup plus approfondie entre les deux pays pourrait apaiser définitivement les tensions entre le Rwanda et la RDC, même dans la région des Grands Lacs, notamment à travers la relance de la CPGL, qu'ont salué les deux présidents.
Justement, je suis d'accord. Je crois que c'est ça même la raison de toutes les critiques de ceux-là qui nous agressent. Vous savez, le Rwanda, on l'a toujours présenté comme un pays de mille collines, vide d'ailleurs. Si aujourd'hui, pour notre pays, nous acceptons, quand même, en respectant la souveraineté et les intérêts des peuples congolais, que les autres viennent, qu'on travaille ensemble, hein, que chacun tire au moins ses dividendes, moi je pense que pourvu que nous soyons en paix, c'est pas mal. On ne peut pas rester, la RDC ne peut pas rester dans un vase clos, on ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas aller chez l'autre et empêcher les autres de venir chez nous. Le monde évolue.
Est-ce qu'il faut rester enfermé dans le passé, comme on le constate dans les points de vue de certains auditeurs, qui semblent être vraiment enfermés dans le passé? On sent une certaine rancœur.
Non, moi je pense que des fois, il faut se dépasser des sentiments. Oui, c'est vrai, nous tous, quand même, nous sommes loin de nos frères et sœurs. Sont en train de vivre le calvaire, l'enfer avant l'enfer. Nous pensons que la meilleure façon de les soutenir, de les aider à vivre en paix, c'est des fois d'accepter de perdre même nos avantages pourvu que nous ayons la paix.
Merci beaucoup, Jérôme. Vous intervenez depuis la province de l'Équateur.
C'est Germain Blaise Kayumba.
C'est Germain. Vous intervenez depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Avant d'accorder la parole à notre invité, le professeur Baniakou Lapé, qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa, nous allons décoller de Kinshasa hein, pour nous rendre un peu plus à l'est du pays, à Bukavu notamment, au sud Kivu. Jean-Claude, vous êtes sur place. Le président Kabila a été invité hein, à son tour à se rendre au Rwanda pour une visite officielle à l'issue de cette rencontre qui a eu lieu à Goma. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Comment le percevez-vous?
Oui, merci beaucoup Claude, merci salutations à tous les auditeurs de Radio Capi. Je suis en train de suivre progressivement les débats des uns et des autres par rapport à la question du jour. L'invitation du président Kabila au Rwanda par M. Paul Kagame n'est pas vraiment mauvaise. Même leur rencontre aussi n'est pas tellement mauvaise. Mais si nous devons parler par rapport à la résolution des conflits qui se trouvent dans la région des Grands Lacs, moi je pense que nous devons un peu remonter l'histoire et comprendre que ce genre de conflits proviennent du fait que de part et d'autre, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, il n'y a pas de conflit d'abord à l'intérieur même du pays. Le Rwanda se sentait menacé dans les années 98, 99, à l'époque du RCD ici à l'Est. Il se sentait menacé, pourquoi? Puisque il savait que la capitale congolaise n'était pas contrôlée au niveau de l'Est. Et il avait peur, il savait que les Interamo et les autres opposants rwandais qui se trouvaient au Congo, ils peuvent facilement les attaquer. Et c'est ce qu'ils prennent toujours comme alibi quand ils doivent venir vers les Congo. Alors moi j'aurais pensé, comme avait dit un auditeur qui est intervenu avant moi, que la solution viendrait d'abord du fait qu'il y aurait la paix totale au niveau du Rwanda et qu'il y ait aussi la paix totale au niveau du Congo, à l'intérieur même du Congo. Les sommets économiques, les sommets politiques, c'est bon, ce sont des histoires qui sont sur papier. Mais quelle est cette garantie que nous avons actuellement pour dire que les gens, c'est-à-dire que ceux qui se sont décidés, ceux qu'ils ont pris comme résolution, seront respectés maintenant à la lettre? Moi, j'aurais estimé que il faudrait nécessairement qu'on amène aussi la paix au niveau du Rwanda. C'est ainsi que j'ai salué la présence de Madame Hillary Clinton à l'est du pays, quand il a visité les camps même des réfugiés. Il a vu réellement la souffrance de ces réfugiés-là. Et je vous informe aussi que je suis un agent humanitaire, j'ai vu au quotidien avec ces gens-là. Je comprends leur souffrance, j'ai vu leur souffrance. Le petit peuple qui n'est même pas intervenu pour dire un seul mot à l'entrée de ces réfugiés rwandais au Congo et qui ne disent pas un seul mot au moment où on veut les expulser, c'est ce petit peuple-là qui est en train de souffrir. Les jeunes garçons-là qu'on est en train de fracasser la tête à coups de hache. Qu'est-ce qu'il avait décidé, lui, par rapport à la question de ces migrants-là au Congo? Donc, je pense que les États-Unis, en tant que leader de l'opinion internationale, en tant que conducteur de l'opinion internationale, doit arriver, comme il l'avait fait avec le Congo, à imposer ou pas à négocier un dialogue inter-rwandais. Qu'on amène ces migrants-là à négocier avec le gouvernement actuel. Si nous avons accepté le gouvernement 1 plus 4, qui n'a existé nulle part au monde, pourquoi le Rwanda ne peut pas faire la même chose et tu vois comment résoudre cette question-là sur le plan politique et sur le plan diplomatique afin de nous éviter tout ce genre de problèmes. Aujourd'hui, ils ont décidé de recréer encore la CPG et nous ne savons pas demain si cette CPG va continuer. Moi, je pense que ce sont plus des intérêts particuliers des individus qui sont mis en jeu et la population continuera toujours à se faire.
Jean-Claude, vous dites que vous citez parmi les raisons qui poussaient le Rwanda à intervenir en RDC, c'était la peur de toute action de déstabilisation provenant des FDLR qui se trouvent au Congo. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette peur n'existe plus dans les chefs des autorités rwandaises?
Mais qu'est-ce qui vous dit que cette peur n'existe plus? Est-ce qu'ils ont cette peur?
Il y a aujourd'hui des gels. Il y a aujourd'hui des gels, il y a quand même aujourd'hui il y a un peu moins de tensions. Il y a une tentative de normalisation des relations entre les deux pays.
Oui, Claude, écoutez-moi très bien. Vous êtes peut-être à Kinshasa, mais il faut être sur place. Et l'information que vous avez, peut-être que vous l'avez par intermédiaire, mais il faut vivre la réalité sur le terrain. On est en train de vous parler de Kinshasa 1, on est en train de vous parler de Kinshasa 2. Mais si vous arrivez réellement sur le terrain,
je ne pense pas que la totalité ou bien la majeure partie de ces intérêts mondiaux qui créent l'insécurité aussi bien au Congo et même l'insécurité dans les frontières rwandaises, je ne pense pas que la majorité de ces intérêts-là ont été démantelés. Combien on peut nous dire aujourd'hui, avec des chiffres à l'appui sur le plan statistique, combien des intérêts ont été tués peut-être pendant les affrontements? Combien des intérêts ont quitté la région de l'Est de l'RDC pour rentrer au Rwanda? Par rapport à la totalité, quel est le pourcentage qui a été rapatrié au Rwanda? Quel est le pourcentage qui a été réduit pour dire qu'actuellement le Rwanda peut se dire qu'il n'a plus peur?
Merci. Et l'armée nationale donne de temps en temps.
Nous pouvons le sentir.
Jean-Claude, l'armée nationale donne de temps en temps quelques, disons, le bilan des affrontements. Mais merci quand même d'être intervenu depuis Bukavu. C'est dans la province du Sud Kivu. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Professeur, vous avez beaucoup entendu. Vous avez entendu les réactions de beaucoup d'auditeurs. J'imagine que vous avez peut-être aussi vous avez relevé quelques points sur lesquels vous voulez peut-être intervenir aussi.
Merci beaucoup. Non, je pense que le premier point est un point d'information. Je voudrais donner l'information à notre auditeur qui a parlé de la jeunesse. Donc, depuis qu'on a commencé le processus 2003-2004, dans le cadre de la conférence des Grands Lacs, la jeunesse a toujours été associée à trois forums. Le forum de la jeunesse, le forum des femmes et le forum de la société civile. Donc, les jeunes ont toujours envoyé des délégués au niveau de la région qui prennent part active au niveau des débats dans la conférence, dans les différents sommets de la région des Grands Lacs. Et dernièrement, d'ailleurs, les jeunes ont fait un message au chef d'État au sommet de Lusaka, un message qui était pertinent puisqu'il va insister pour que non seulement qu'on puisse voir la paix en termes de développement, en termes mais aussi voir la paix en termes de sécurité sociale et surtout en termes de l'emploi pour les jeunes. Et ça, c'est un point qui importe. Et pour avoir de l'emploi, il faut avoir la paix. Justement, c'est ce cercle vertueux qui nous permet de dire, aujourd'hui, si nous enclenchons la paix, il y a moyen d'enclencher le développement, il y a moyen de sécuriser les populations, il y a moyen aussi de s'occuper de la jeunesse pour l'avenir de notre pays pour demain. Ça, c'est du côté de la jeunesse. Et je voudrais aussi apaiser les autres auditeurs en ce qui concerne les garanties qu'on donne. La première garantie que nous avons actuellement par rapport à l'ancien, c'est la garantie des pactes. Les pactes, dans son article 5, pour le chapitre de pactes, le protocole de non-agression, dit ceci, qu'aucun État ne peut attaquer un autre dans la région. Et que si un État attaque un autre, tous les autres États vont s'organiser comme ils ont fait un pacte, un protocole de défense mutuelle et de non-agression. Donc, sur ce point, il y a quand même des dispositifs qui sont en train d'être pris au niveau de la sécurité, le chef d'État de la région. Il insiste peut-être pas directement, mais il
professeur, s'il vous plaît, professeur, rencontre des présidents Kabila et Kagame le jeudi 6 août dernier à Goma, en Nord Kivu, à l'invitation du président congolais. Comment jugez-vous le rapprochement entre les deux pays et que faire pour maintenir des relations apaisées entre les deux pays et même dans la région de Grand Lac? Réagissez à ces deux questions en direct en parole aux auditeurs. Et pour le faire, appelez-nous directement au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Et si vous nous suivez de l'étranger, n'oubliez pas de mettre le code de la RDC, le 00243, avant le 81-99-77-800. Par SMS, envoyez votre point de vue ou encore votre prénom et un numéro de téléphone par lesquels on peut vous joindre. Envoyez-les-nous par SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet, envoyez votre mail ou votre prénom et un numéro de téléphone pour vous rappeler à l'adresse pa@radiookapi.net. N'oubliez pas, Radio Okapi s'écrit en un seul mot avec deux lettres O collées. Nous en parlons aujourd'hui avec un invité, il s'agit du professeur Banyakouloapé. Il enseigne les relations internationales à l'université. Juste le temps de lire beaucoup de mails qui nous parviennent dans cette émission. Roger Boukétou, Roger de Kistangani, dans la province orientale, pense que c'est une très bonne chose que les deux présidents se rencontrent. quant aux déclarations du président Kagame, je suis sceptique aussi, je me rappelle de la guerre de 1997, Kabila perd contre Mobutu, la guerre de 98, les différentes agressions des non-milices soutenues par le Rwanda sous Kagame et dernièrement le cas Nkunda. Tout ça montre d'après lui l'implication du Rwanda. Docteur Célestin, qui est médecin congolais, qui évolue à Madrid en Espagne, pense que depuis l'avènement du président Kabila, combien d'accords n'ont-ils pas été signés, mais sur le terrain, ces accords n'ont jamais été matérialisés. Il pense que les Rwandais sont de mauvaise foi. La solution à ce problème, à mon avis, est que la RDC puisse développer son arsenal militaire pour se faire respecter par force. À l'époque de Mobutu, pour sous le docteur Célestin de Madrid en Espagne, l'armée était forte, disciplinée, ce qui nous a valu l'estime et le respect de nos voisins. Un autre médecin, cette fois-ci, c'est Germain, il ne nous dit pas d'où il nous écrit, il pense que s'il faut considérer les accords ou ententes entre nos deux présidents, nous, Congolais, devons avoir confiance à ce qui a été conclu entre les deux pays. Car aujourd'hui, d'après lui, les deux présidents ont compris qu'il faut faire la paix pour donner la chance au développement de la région. Je suis fier, poursuit-il, de ce qu'ils ont fait. C'est un pas vers un meilleur avenir dans les relations bilatérales entre les deux pays. Et je m'insurge, poursuit le docteur Germain, il s'insurge contre ceux qui minimisent les voisins sans pour autant sauver le Congo par leurs actions. Franck nous écrit d'Autriche en Europe, pour lui, il dit ceci, pour dire qu'il faut saluer ces efforts politiques de ces deux hommes d'État, si les relations entre les deux États peuvent être orientées sur d'autres bases nouvelles. En Europe, par exemple, pour ceci, les gens ont compris qu'il faut apprendre à développer d'autres rapports de voisinage, excusez-moi, cela doit être également le cas avec les États de l'Afrique de Grand Lac. Gréco nous écrit de Goma, pour lui la rencontre Kabila Kagame est salutaire pour nous qui vivons à l'Est. Poursuit-il, nous avons perdu des êtres chers pendant les guerres avec des conséquences néfastes sur le plan économique et social. Je suis optimiste, poursuit Gréco de Goma, qu'avec l'implication des puissances étrangères, nous pouvons espérer que l'Est pourra enfin aspirer à un avenir radieux, étant entendu que les guerres ne nous avancent en rien. Merci beaucoup Gréco de Goma et merci aussi à tous les autres auditeurs. Enfin, je termine avec Elvis qui ne nous dit pas également d'où il nous écrit. Il pense que cette rencontre ne changera rien tant que le Rwanda n'aura jamais reconnu toutes les atrocités graves qu'il a infligées au peuple du Kivu. D'après lui, Kagame n'a rien changé de sa politique dans l'est du Congo. Et les attitudes du président Kabila concourent à la nouvelle stratégie de Kagame de distraire la communauté internationale qui avait fait pression sur lui après tous les rapports confirmant son soutien dans toutes les guerres du Kivu. Merci beaucoup pour tous vos mails, pour toutes vos interventions. Enoch est à Kinshasa. Bonjour Enoch.
Oui, bonjour Claude.
Est-ce que vous avez suivi toutes ces réactions que je viens de lire?
Oui, j'ai suivi, je crois, la plupart des réactions, oui.
Est-ce que vous êtes réagissé par rapport à ces réactions?
Non, ma réaction, je crois, mais je comprends les auditeurs qui n'ont pas le même point de vue, mais pour tout le monde, je voulais dire ceci. Depuis un temps, depuis les crises que nous avons connues, nous avons l'impression que les compatriotes sont sceptiques et ne croient plus à une solution à tous nos problèmes. Mais je crois que la rencontre de Goma, il faut l'appuyer, il faut reconnaître que ce sont des efforts. Il y en a qui disent que c'est encore une énième rencontre.
Une énième déclaration aussi du président Kagame, une énième déclaration de Kagame qui en a fait beaucoup.
Oui, ce n'est pas ça qui va nous décourager. Il faut croire à chaque déclaration qui arrive. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, le problème des accords, c'est toujours lié à la bonne foi des acteurs. C'est vrai, ça donnait toujours l'impression qu'il n'y a pas de bonne foi, mais je crois cette fois-là, c'est la bonne, il faut l'appuyer. Nous espérons que de l'autre côté aussi sont des hommes, et l'homme a une caractéristique d'évoluer et de changer. Je crois que cette fois-là, on peut avancer et évoluer.
Voilà, nous avons d'ailleurs, nous saluons la présence du professeur qui vient d'entrer dans ce studio, malgré qu'il ne reste que 6 minutes, ben, il a quand même participé au téléphone. Voilà, d'après vous, monsieur Enoch, que faut-il faire justement pour maintenir des relations apaisées entre les deux pays, et même dans la région des Grands Lacs, en une minute s'il vous plaît.
Bon, écoutez, bon, ce qu'il faut faire, il n'y a pas de magie à faire. C'est la bonne foi des acteurs, comme certains auditeurs d'ailleurs l'ont dit. Nous avons vu les images même qu'on a vues, les médias qu'on a suivis, où nos chefs d'État s'est rencontrés, c'est quand même des moments qu'on n'a jamais vus. On a été, pour certains, on a été surpris. De voir le président Kabila se saluer avec le président Kagame, je crois que l'histoire va retenir ce moment et l'histoire nous va demander encore le compte pour ce moment. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous devons accorder le bénéfice de bonne foi.
Merci.
À nos chefs d'État qui peut-être aller vérifier dans les jours à venir.
Merci beaucoup, M. Enoch, pour vous intervenir à partir de Kinshasa. Professeur, on va conclure avec vous puisqu'il ne nous reste que 3 minutes. Les réactions sont partagées. Hein. Je vais vous en lire quelques-unes. Il y a par exemple le docteur Célestin qui nous écrit, c'est un médecin qui évolue à Madrid en Espagne, qui dit que il faudrait que la RDC développe son arsenal militaire pour se faire respecter par force. À l'époque de Mobutu, poursuit-il, l'armée était forte, disciplinée, ce qui nous a valu l'estime et le respect de nos voisins. Et Gréco de Goma a un avis tout à fait. Lui pense que il est optimiste. Oui, il est optimiste qu'avec l'implication des puissances étrangères, nous pouvons espérer que l'Est pourra enfin aspirer à un avenir radieux, étant entendu que les guerres ne nous avancent en rien. Quelqu'un également, je pense, dit qu'il salue cette rencontre parce qu'ils ont perdu beaucoup d'êtres chers à l'Est du pays. Réagissez face à ces réactions qui sont tout à fait opposées, peut-être.
Je ne peux pas, pour l'instant, aller dans la polémique de pour ou contre. Je voudrais tout simplement souligner que l'effort qui est fourni par les deux chefs d'État et par les autres chefs d'État de la région ainsi que par la communauté internationale sont à féliciter et à encourager. Ça, c'est de un. Et de deux, je voudrais souligner que il n'y a pas que l'aspect militaire, il y a aussi l'aspect politique et diplomatique qui doit un peu être considéré dans cette démarche qui est engagée au niveau de la région. Et de trois, je pense que le potentiel économique qui est actuellement au niveau de la région des Grands Lacs, que ce soit l'Angola, le Soudan, le Congo, c'est déjà que la Tanzanie, la Zambie, ainsi que tous les autres États, les Congos en face, sont d'un potentiel qui est très important pour l'humanité et qui exige à ce qu'il y ait beaucoup d'intelligence pour sauver ce potentiel et faire vivre la population avec les ressources que nous avons dans la région.
Donc la solution pour stabiliser la région des Grands Lacs, c'est la coopération économique, comme l'a fait l'Union européenne, hein, qui a oublié ces guerres, hein, après les tensions entre pays, les affrontements après la Seconde Guerre mondiale.
Oui,
la CPGL peut-être.
Nous sommes à ce point. La CPGL, ce n'est qu'un des 11 projets. Mais les autres projets sont vraiment engagés dans la région des Grands Lacs.
Merci beaucoup, professeur Bagnacou, pour avoir fourni un effort pour arriver quand même au studio. Merci d'avoir participé à cette émission à partir du téléphone pour la grande partie de cette émission. Vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa. C'est avec vous qu'on termine cette émission.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Il ne répond pas?
C'est Cette émission Parole aux auditeurs s'achève ici, du moins pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour débattre avec vous de la problématique de l'aide accordée à la RDC par différents bailleurs de fonds. Est-ce que cette aide, d'après vous, contribue réellement au développement de la RDC? Réagissez dès à présent par SMS au 0998-999-222 et par Internet à l'adresse ta@radiocapi.net. Merci à Kikim Poutou et Pierrot et la magie qui sans relâche travaille pour vous dans l'ombre pour préparer cette émission. Votre émission Parole aux auditeurs est Ben Kabamba qui assure chaque jour le contrôle éditorial de Parole aux auditeurs. William Mungamba a été aux commandes de la technique et il vous a permis de nous recevoir dans de très bonnes conditions là où vous vous trouvez. Merci à vous auditeurs et auditrices. Je vous laisse maintenant en compagnie de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.